Le Larzac restera, notre terre servira à la vie des moutons. Pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force, nous garderons l'Arzac.
Mais ça m'a changé tout, moi, parce que j'étais pas prévu pour être agriculteur. Je devais être prof et je devais partir travailler à Paris et peut-être revenir dans le coin au fur et à mesure, mais bon. Et à cause de ça, j'ai dit non, je pars pas travailler ailleurs tout en luttant contre le fait que les terrains agricoles, les terrains du Larzac allaient devenir militaires.
Des moments de confrontation, évidemment, où nous, avec juste nos corps pour faire barrage, on s'est trouvé face à une armée de gendarmes mobiles.
Moi, je n'ai pas de terrain, mais par contre, je vivais là. Et donc, ça veut dire que si l'extension du camp était réalisée, ça voulait dire que moi, j'étais obligé de partir, même si je n'avais pas de terrain.
Gardarem la mémoire. Une émission du club radio 2024-2025 du Collège du Larzac.
La cavalerie, février 2025. Un établissement ouvert en 2023 à quelques pas d'un camp militaire. La relation entre ce camp militaire et le Larzac a une histoire particulière, faite de luttes non violentes et de l'engagement de milliers de personnes. Une histoire que nous, nés dans les années 2010, n'avons pas vécue. Nous y sommes pourtant liés par les familles de certains et certaines d'entre nous et par ce collège que nous fréquentons. À partir de ces liens, nous avons eu envie de mieux comprendre notre passé commun et notre territoire. C'est précisément de ce plateau du Larzac que nous prenons la parole pour vous raconter l'histoire de cette lutte du Larzac.
De force, nous garderons l'Arzac. La bergerie de la Blaquière, malgré le veto du préfet, est faite par des volontaires.
J'ai décidé d'interviewer Christian Roqueyrol. Je sais que c'est un militant très actif, même aujourd'hui. La lutte a été pour lui une véritable expérience.
J'ai interviewé monsieur et madame Calazel car ce sont mes grands-parents. Ils parlent souvent du mouvement et que je pensais que c'était intéressant de les entendre dans ce podcast.
J'ai interviewé Léon Maillet parce qu'en fait Christian Roqueyrol m'a dit que c'était un véritable pilier de la lutte et qu'il avait vraiment été très très actif. J'ai enregistré Jean-Paul Delette parce que je trouvais que c'était très intéressant vu qu'il était mon voisin et que j'avais beaucoup entendu parler de cette lutte, que c'était vraiment très intéressant de l'interviewer, c'était une expérience inoubliable dans sa vie.
Nous avons souhaité interviewer Nicolas car c'est l'un des fondateurs de Radio Larzac qui a été monté dans la continuité de Larzac 2003, le rassemblement altermondialiste dans le cadre du 30e anniversaire de la lutte de Larzac.
Je m'appelle Janine Burguère. J'habite à la ferme de l'hôpital et je suis venue au collège du Larzac pour être interviewée sur ce que nous avons vécu sur la lutte du Larzac.
Je m'appelle Christiane Burguère, je suis la sœur de Janine, j'habite sur le Larzac aussi. J'ai fait avec mon mari toute la lutte du Larzac depuis 1971 à 1981, donc 10 ans de lutte et je viens ici pour vous la raconter.
...1902, construction du camp militaire du Larzac. Nous avons rencontré des personnes qui ont participé au mouvement pour avoir leurs témoignages et ressentis. Nous avons posé plein de questions.
À cette époque-là, j'étais objecteur de conscience. Je refusais de faire le service militaire qui était obligatoire. Je refusais d'aller porter les armes.
Christian Roqueyrol.
Et comme j'étais objecteur de conscience, je voulais faire un service civil qui aide à une lutte. Donc je suis venu. Mon rôle, c'était venir donner un coup de main aux paysans du Larzac et de participer avec eux, mais en étant un peu à leur service. Quoi.
Janine et Christiane Burguière.
On a fait surtout un rôle d'accueil, surtout Janine, même moi, parce que nos maisons étaient à côté, et comme c'était sur le bord de la Nationale, il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient à la ferme pour avoir des nouvelles, pour savoir qu'est-ce qui se passait et tout ça.
À l'aide de cartes, nous avons pu reconstituer une image de l'extension du camp des différents espaces concernés par la lutte.
Le plateau du Larzac se situe au sud du massif central, dans l'Aveyron. Le camp militaire aujourd'hui s'étend de la cavalerie jusqu'à Montredon et la Blaquière, et jusqu'au Liquis. Aujourd'hui, le camp fait 3500 hectares. Le camp du Larzac qui devait se construire s'étendait de la cavalerie jusqu'à la Couvertoirade et presque jusqu'à Millau. Il devait le faire passer de 3500 hectares à 17 000 hectares et nécessite l'expropriation de 109 familles de paysans qui pratiquaient la culture de céréales et l'élevage de brebis.
Rapidement, les paysans concernés s'organisent pour garder leurs terres menacées par l'extension du camp.
12 octobre 1970, annonce du projet d'agrandissement du camp militaire du Larzac par le secrétaire d'État à la Défense mondiale. 6 novembre 1971, 6000 personnes manifestent à Millau à l'appel de la FDSEA. C'est la première mobilisation importante.
Justement, on a commencé en 1971 quand on a appris à la télévision par le ministre des Armées, Michel Debré, à l'époque, il s'appelait. Il a dit à la télévision, j'ai décidé d'agrandir le camp militaire du Larzac de 3000 à 17 000 hectares. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, ça, c'était tout. Voilà, on a appris ça. Donc, on a croisé les bras. Moi, je me rappelle, avec mon mari, on a dit, mais c'est pas possible. On était furieux, quoi. Ça nous tombait sur la tête, comme ça. Donc, bon, je me demande même si on a mangé notre repas du soir, parce que c'était à 7 heures du soir. Et puis, le lendemain, on a téléphoné à des personnes, des voisins, de la famille, tout ça, et... On était vraiment très, très anéantis, on était choqués.
Les paysans et paysannes choisissent la non-violence comme outil de résistance à l'extension du camp du Larzac.
28 mars 1972, 103 paysans font le serment de ne jamais vendre leurs terres à l'armée.
Les militaires, ils étaient devant la non-violence, ils ne savaient pas quoi faire. C'est eux qui ont les armes, nous on ne les a pas. Ils essayaient de nous éviter quand même, parce que petit à petit, ils se rendaient bien compte qu'on avait mis en place quelque chose d'important. Et puis, on a eu une chance inouïe, on a eu un soutien mais colossal de toute la France, même de l'étranger.
La lutte du Larzac se distingue par une diversité d'actions comme des jeunes, de la désobéissance civile, mais aussi des marches et de manifestations.
Il s'appelait Lanza del Vasto. Il a créé quelque chose sur la non-violence. C'était un non-violent et il nous a dit, il est venu à la Maison du Peuple à Millau, il a parlé et il nous a dit « Je vais faire un jeûne de 15 jours à la cavalerie. » Déjà, c'était organisé. « Et je vous invite à vous joindre à moi pour faire ce jeûne, un jour, deux jours, comme vous pouvez. » Et entre-temps, donc ça s'est fait, et entre-temps, ce qu'on a fait, c'est que au moment des repas, de midi et du soir, on pouvait y aller, sans manger, ou on avait déjà mangé chez nous avant, mais ils nous faisaient une conférence sur la non-violence.
En même temps, dans la préfecture, on surveille de près les paysans, comme on l'a découvert aux archives départementales de l'Aveyron.
Si tu avais trouvé quelque chose.
C'est juste parce qu'il y avait marqué confidentiel.
Oui, mais tu l'as lu.
Tu avais trouvé quelque chose. C'était marqué ça, quoi.
Est-ce que ça vous surprend que certaines des archives soient complètement rayées?
Non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord.
Pourquoi?
Parfois, dans les documents d'archives, vous avez peut-être tombé dessus, parce que là, c'est la direction des renseignements généraux, c'est le service secret français, ça. D'accord? Direction des renseignements généraux, c'est les services secrets français. Donc en fait, ça veut dire que les services secrets ont a priori fait des enquêtes sur les gens qui ont lutté pour le Larzac, comme si c'était des terroristes ou des délinquants. Ok? Et parfois, quand les renseignements généraux rayent des choses ou font des ratures dessus, c'est parce qu'ils savent que leurs archives vont tomber ensuite dans les archives consultables par le public et ils ne veulent pas que ce soit lu. Et vous voyez qu'il y a certains des mots qui ont été grisés. C'est pour qu'on ne sache jamais ce qui a été dit. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je peux le lire. Hein.
Voilà. Donc là, vous avez des documents des services secrets sous les dents. C'est pour ça que c'est écrit confidentiel. Ouais, mais parfois, ils peuvent cacher des choses. Donc, ça peut être intéressant.
J'ai trouvé un document qui est très intéressant car on peut y voir à quel point les gens à ce moment étaient très investis dans leur cause au point d'en faire des associations. Il parle de la date du 3 novembre 1973. Il y a les motivations des gens dedans, les choses pour lesquelles ils se battent, ce qu'ils dénoncent comme les méthodes mensongères qui sont utilisées par certaines personnes. Donc c'est très intéressant de voir ça, à quel point les gens étaient investis et pour lesquels ils se battaient en fait.
Sur le journal Aveyron, on peut voir un article qui s'appelle « Meeting à la mutualité, Larzac, terre de blé ». Une très belle phrase sur cet article qui dit « Le Larzac n'est pas une terre à canon, mais une terre à blé. La France n'est pas un marchand d'armes, mais un pays aux traditions humanistes bien établies. » Voilà ce que les Aveyronnais du Larzac ont voulu faire ressortir, cette fois à Paris, avec succès.
Au cours des événements, les actions se multiplient et la lutte prend de l'ampleur. Les paysans et paysannes montent à plusieurs reprises à Paris pour faire entendre leur cause. En 1972, 1973 et 1975.
21 octobre 1972, manifestation à Paris. 60 brebis broutent l'herbe sur le Champ de Mars.
7 janvier 1973, 21 tracteurs partent du Larzac vers Paris.
12 juin 1975, deux manifestations surprises dans Paris avec une banderole « Larzac vaincra ».
Ce qu'il faut dire aussi qui était quand même important, c'est que pendant la lutte, il y avait beaucoup d'humour. On avait beaucoup d'humour. Par exemple, avec mon mari, on était 5 ou 6 seulement à Paris à mener des brebis sous la tour Eiffel. Bon, déjà, il faut le faire. On était un peu comme ça quand même, hein. En arrivant à Paris dans le camion, là, moi j'étais dans le camion avec mon mari et puis guitarier qui conduisait. C'était drôle, quoi, parce que, par exemple, on a été sous la tour Eiffel, il y avait les flics qui sont arrivés tout de suite, ils nous ont dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Il y en a un qui a dit « on fait un film publicitaire, la régie arrive derrière ». C'était faux complètement, quoi. On avait le culot de faire des trucs comme ça, qui n'étaient pas méchants, mais qui étaient mensongers. Mais ça fait rien, il fallait le faire. Et puis alors après, on a ri parce que les brebis, il fallait les faire boire. On leur avait donné à manger, mais on n'avait pas d'eau. Il fallait les faire boire, et elles n'ont pas voulu boire l'eau de Paris. Donc elles ne devaient pas être très bonnes. Bon, je ne sais pas qui c'est qui avait porté quelque chose pour qu'elles boivent, elles n'ont pas voulu.
Et j'ai fait du camping sur la tour Eiffel, comme beaucoup d'autres.
Léon Maillet.
Et après, on a terminé le camping sur une péniche, sur la Seine. On n'était que deux dans une tente sur une péniche.
Le mouvement arrive à l'oreille d'autres personnes de différents pays et régions et soutiennent ce mouvement. Des comités d'action fleurissent partout en France pour soutenir et coordonner des actions à mener contre l'extension du camp.
6 mai 1973, des chanteurs irlandais et des natifs américains viennent sur le Larzac apporter leur soutien. Le mouvement se mondialise.
Et pendant la lutte aussi, on était jumelés. Chaque ville, pour avoir plus de poids, on était jumelés avec des villes. Alors, par exemple, nous, à la ferme de l'hôpital, on était jumelés avec Chambéry. Et le maire de Chambéry, il avait mis une grande banderole à l'entrée en disant qu'il était jumelé avec la ferme de l'hôpital. Il y avait la Blaquière qui était jumelée avec Sète, d'autres avec Orléans, d'autres avec Paris, enfin bon. Et ça, c'était important. Et souvent, quand il y avait ces comités qui venaient le week-end, chaque ferme recevait les gens de sa ville. Voilà. Et nous, on a beaucoup d'amis du côté de Chambéry.
À New York, le comité américain pour le Larzac invite les citoyens à écrire au président de la République française. Le comité américain aide le Larzac pour le soutien pour pas que le camp s'élargisse. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. L'aide vient d'Amérique.
Pour propager le mouvement, les militants créent un documentaire pour expliquer leur situation.
15 mai 1974, sorti au cinéma du film documentaire Garde à Rem, Lou Larzac.
Les Larzaciens décident d'agir pour conserver leur ferme avec des actions pas toujours légales.
5 octobre 1974, première occupation illégale de la ferme des Truelles par la communauté non violente de l'Arche.
Au départ, c'était défendre mon terrain pour pas qu'elle en mette le pic. Puis après, petit à petit, avec l'évolution, on se bagarrait pour emmerder l'armée, il faut carrément dire le terme.
Oui, l'une des actions à laquelle j'ai participé, qui a duré 3 ans et demi, c'est une occupation de ferme. La ferme de Cavaillès, qui était vendue à l'armée, mais où il n'y avait personne dedans, les bâtiments étaient vides. Donc on a occupé avec tous les paysans, mais on était censé être deux occupants, qu'on pourrait rester là avec un troupeau de brebis et tout. On a occupé cette ferme pendant 3 ans et demi, pendant 4 jours, et après ils nous ont expulsés. Et nous, on s'est installés sur un terrain juste à côté, un terrain civil, qu'ils ne pouvaient pas nous faire sortir de là. Et du coup, pendant 3 ans et demi, on a construit une maison là, puis après en bois, et puis après une bergerie, avec l'aide de tous les militants, de tous les paysans. Assez rapidement, on a fait tout ça.
Bien que les actions des paysans sont non violentes, pour les militaires, ce n'est pas le cas.
10 mars 1975, un attentat provoque une explosion à la ferme de la Blaquière et détruit la maison de la famille Giroux.
La nuit du 10 mars, à 3h du matin. C'est une famille de les parents, donc Auguste et Marie-Rose Guiraud de la Blaquière. Ils ont 7 enfants, 2 filles et puis 5 garçons. Et ils ont entendu une bombe, puis une autre, et la maison s'est écroulée pratiquement sur eux. C'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort, miraculeux. Mais ils ont été traumatisés à vie, quoi. Moi, je me rappelle parce que je venais d'avoir mon petit garçon. Et je l'allaitais justement à 3h du matin, et puis je suis partie à 8h, et tous les voisins, on s'est retrouvés chez les Guiraud pour les soutenir, pour voir ce qu'il fallait faire. Bon, voilà quoi.
Ben nous, cette nuit-là, on est venus nous appeler, et c'était les voisins qui sont venus, mais ils sont arrivés avec les 4 roues de la voiture crevées parce que, En plus d'avoir fait cet attentat, ils avaient mis des clous partout pour qu'on ne puisse pas leur porter secours. Donc ceux-là sont arrivés, mon mari est parti à la gendarmerie, à Millau, et eux, ils dormaient. C'était, je ne sais pas, 4h du matin.
Oui.
Et donc il est monté aux grilles de la gendarmerie et il a tapé, crié, et là, les gendarmes sont sortis, puis bon, tout s'est mis en route.
J'ai reçu une grenade lacrymogène dans la figure.
Jean-Paul Delède.
Je conserve encore les séquelles, donc des dizaines d'années après.
Mais moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la non-violence. On avait des gens qui étaient compagnons avec Lanza del Vasto. Et donc, un qui s'appelle notamment Roger Moreau, et lui, il était là pour surveiller un peu, qu'on ne soit pas trop violent. Et donc, un jour, je me souviens, mon mari avait fait une bêtise, je ne me rappelle plus ce qu'il a fait, par rapport aux militaires. Et tous les soirs après les actions, on avait un rassemblement et on devait se retrouver. Et donc, il y avait ce gars qui était là et qui a dit, Jean-Marie, mon mari s'appelle Jean-Marie, Jean-Marie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu n'as pas été non-violent. Parce qu'il avait attrapé un militaire, il l'avait secoué, il l'avait menacé de l'envoyer dans le ravin. Et donc, il a dit, oui, je reconnais. Et ça, je trouvais que c'était très fort. Devant tout le monde, il a dû dire ce qu'il avait fait de mal. Et il lui a dit, le gars de...
Roger Moreau.
De Lanza del Vasto, il ne faut pas recommencer. Les autres ont dit, oui, tu as raison, là, on fera attention à ci, à ça. Parce qu'il y en avait d'autres qui faisaient des bêtises, mais on ne les voyait pas. Parce que ça m'a beaucoup touchée.
Oui, la non-violence, en fait, ça s'apprend. Quand on vous dit il faut être non-violent, mais ça veut dire quoi? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
C'est plus vite fait de donner un coup de poing
que de violent. C'est vrai. Et petit à petit, on l'a appris. Alors nous, la non-violence, pour nous, quand on voyait les militaires ou les gardes mobiles, parce qu'il y en avait beaucoup aussi de gardes mobiles, ils nous surveillaient, mais on était là comme ça, devant eux. Pas un mot. Ils nous parlaient des fois. Ils nous surveillaient. En fait, ils étaient gênés.
Ça les déconcentrait.
Oui, ça les déconcentrait. Ils étaient gênés parce qu'on ne disait rien. C'est ça la non-violence aussi. On reste là, on occupe le lieu, mais on fait de mal à personne.
Les paysans et paysannes arrivent à obtenir la promesse de François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, d'abandonner le projet d'extension du camp le 21 mai 1981. Mitterrand est élu président de la République et il maintient sa promesse.
3 juin 1981, annulation du projet d'extension en Conseil des ministres après arbitrage de François Mitterrand.
Et après, les traces du mouvement ne se sont pas effacées. Au contraire, la lutte contre l'extension du camp a permis de garder la sécurité de l'utilisation des terres dans un but agricole, grâce à la mise en place de la SCTL, Société Civile des Terres du Larzac.
L'outil qui reste sur le plateau du Larzac, c'est que finalement, à la fin de la lutte, le camp ne s'est pas agrandi.
Nicolas Galtier.
Que l'État il a gardé la partie qui devait être l'extension du camp du Larzac. Donc ça appartient toujours à l'État, mais ils ont expérimenté. Il y a une société civile, la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac. Donc en fait, les terres qui étaient prévues dans l'agrandissement du camp militaire, elles sont donc toujours à l'État. Elles sont gérées collectivement par des gens ici sur le plateau. Et ça reste un outil collectif qui reste aujourd'hui super pertinent parce que, par exemple, ma mère, elle fait partie de donc ceux qui sont arrivés pendant la lutte. Là, elle a utilisé un outil agricole. Et ben, quand elle va arriver à la retraite, elle va devoir quitter la ferme, là où elle a vécu, où je suis né. Et cette ferme, il y a d'autres candidats qui vont postuler et qui vont pouvoir avoir un outil agricole pour quasiment rien. Et ils vont pouvoir travailler la terre et vivre ici et faire du lien avec les gens, nourrir les gens. Et en fait, ce truc-là, c'est grâce à la lutte.
Elisabeth et Robert Calazel.
Alors en 81, donc quand le Larzac a été rendu aux paysans, nous on a justement pu faire un projet d'installation agricole. Donc en 81, on s'est associé avec des gens qui venaient aussi, qui avaient envie de s'installer, et on s'est installé à la salle de taille une première fois.
J'ai demandé au comité d'installation, puisque il y avait plusieurs comités, donc il y a eu le comité d'installation. Je leur ai demandé de me réserver une ferme à la Salvetta sur laquelle j'installerai quelqu'un avec qui je m'associerai et j'amènerai les terrains de la blaquerie, les terrains que mon père était en train de me donner. je les échangerai pour faire une exploitation groupée et laisser mes terres aux gens de la Blaquerie, les quelques terres qu'on avait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis installé à Salvetat et j'ai installé quelqu'un sur les bâtiments d'une des fermes de la Salvetat. Et ouais. Puis, contrairement à certaines régions où les agriculteurs, l'âge des agriculteurs augmentait, où il n'y avait pas d'installation, là, sur l'Arzac, il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés, donc ma génération, des jeunes de 70 ans, et ensuite nos enfants aussi se sont installés, parce qu'il y a eu aussi des nouvelles mentalités. On a créé des CUMA, des coopératives d'utilisation de matériel agricole, du matériel plus costaud, plus gros. Les broyeurs de cailloux sont arrivés. On a pu défricher beaucoup de surface. Sur l'exploitation sur laquelle je m'étais installé en 82, je pense qu'il y avait 30 hectares de labourables. Actuellement, il doit y en avoir 180 et quelques. Puis, il y a la vie qui reprend sur le Larzac. Il y a une autoroute qui a traversé. Il y en avait qui disaient qu'une autoroute, ça allait drainer la région et tout le monde allait partir. D'autres disaient non, ça va irriguer la région. Et je pense que ça a irrigué la région. L'autoroute nous permet de circuler, surtout pour les jeunes, de circuler rapidement jusqu'à des grandes villes, jusqu'à la mer, jusqu'à bon, où on veut. Quoi. Bon, tout ça, ça a fait que ça a permis aux gens de venir s'installer.
Aujourd'hui, les paysans et militaires ont trouvé un moyen de cohabiter.
Mais avant qu'il y ait le projet d'extension du camp, on n'avait aucun problème. C'était des voisins, on les respectait eux aussi, et voilà quoi. Mais quand il y a eu ce projet, nous on a réagi. Parce que la terre, elle est faite pour la vie, pour nourrir les hommes. On avait des brebis, des animaux. C'était notre métier. Il n'y a jamais eu, personne n'a eu un revolver ou une matraque pour taper sur un militaire. Jamais, jamais on a fait ça. On n'avait pas intérêt à faire ça. Il fallait qu'on montre autre chose.
Quand même, on nous l'a proposé, de prendre des armes et de faire sauter ceci, cela.
Oui, il y en a qui nous disaient des trucs comme ça.
Quand ils venaient, qu'ils débordaient de leur camp, Moi je me souviens, on m'appelait, par exemple, il y en a qui sont sortis vers Montredon, vers ci, vers là. Et donc j'allais chercher les hommes qui étaient au champ, et ils partaient tout de suite sur le lieu ou pour les empêcher d'avancer plus loin. Oui, on les a beaucoup côtoyés pendant la lutte. Oui.
Mais c'était eux qui débordaient des limites. Alors qu'ils avaient, normalement, ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils pouvaient piétiner les récoltes, tout ça, donc.
Mais il faut comprendre ça, parce que nous, on voulait garder nos terres.
Et donc, on a cohabité avec les militaires qui étaient dans la ferme, qui ne voulaient pas qu'on y rentre, donc les bâtiments. Et nous, juste derrière, et il y a même des fois où certains militaires venaient jouer aux cartes le soir avec nous. Parce que ce n'étaient pas des militaires de métier, c'était, à l'époque, c'était, on appelait ça les appelés, c'est-à-dire des gens comme moi et d'autres qui allaient faire leur service militaire. Et il y en avait qui étaient assez d'accord avec nous, donc... On a eu beaucoup de contacts avec ça, à ce moment-là.
La mémoire de la lutte se transmet à travers les générations, notamment dans des projets comme l'Arzac 2003.
Alors l'Arzac 2003, moi j'y étais pour le boulot, on va dire, puisque je venais de tomber dans la radio, à Radio Sainte-Afrique, et il se trouve qu'avec plein d'autres radios du sud de la France, sur ce rassemblement l'Arzac 2003, il y a un collectif de radios qui s'est créé pour le temps des trois jours et qui s'est appelé Radio l'Arzac, qui était une radio éphémère. Et donc moi, je faisais la technique à Radio Sainte-Afrique à cette époque-là, et c'est Radio Sainte-Afrique qui a amené toute la partie technique, le studio, tout le matériel qu'il fallait pour faire de la radio pendant trois jours là-haut. Et du coup, on s'est retrouvé avec plein d'autres gens d'autres radios du sud de la France à faire de la radio ensemble pendant les trois jours du rassemblement. Du coup, j'ai fait des techniques avec Daniel Mermet, qui était un grand monsieur de la radio sur France Inter il y a longtemps. Et puis, il y a eu des gros concerts comme Manu Chao, Asian Dub Foundation, que je viens de voir il n'y a pas très longtemps au club à Rodez et qui m'a rappelé ça. Voilà, le souvenir, c'est un côté foisonnant avec plein de gens, très colorés, plein de slogans, de la musique, très festif. Et puis, au niveau moi, boulot, rencontrer plein de gens d'autres radios, d'échanger, de faire de la radio ensemble. Et voilà, d'avoir au micro des gens un peu connus, tout ça, ça fait toujours bizarre, quoi, de se dire waouh, j'ai côtoyé des gens célèbres, entre guillemets. Mais c'était surtout l'effervescence de ces moments-là, quoi. Les organisateurs s'attendaient à ce qu'il puisse y avoir des soucis, des malaises, des choses comme ça. Et tout s'est très bien passé. Et de l'autre côté de l'autoroute, il y avait la grande scène avec tous les gros artistes qui jouaient. Et du coup, à un moment, il y a eu tellement d'afflux de gens qui voulaient passer du côté militant pour aller au côté concert, qu'à un moment, carrément, le préfet a décidé de fermer l'autoroute. Et du coup, les gens pouvaient passer, traverser l'autoroute, il n'y avait plus une voiture pour aller au concert. Et c'était très symbolique de, ben voilà, du nombre de gens qui ont réussi à faire plier le temps d'un instant. Voilà, on arrête les voitures et voilà, vous pouvez circuler librement.
Nous refusons les guerres coloniales! Nous refusons la destruction de l'environnement par les multinationales! Nous refusons l'État policier qui est garant des multinationales! Ce que nous voulons avec vous, avec nous, c'est construire un monde juste, équitable, solidaire.
Je suis Nicolas Dung, je suis porte-parole de la Confédération paysanne et viticulteur dans un département voisin, le département du Gard. Nous savions que pour changer les choses, que pour changer le monde, il fallait le vouloir. Mais nous savons aussi que pour changer les choses et pour changer le monde, il faut se mettre en marche. Et nous avons acquis la certitude depuis 2 jours que nous nous sommes mis en marche, que vous vous êtes mis en marche.
Des ouvrages comme le film « Tous au Larzac » et la BD « Larzac » témoignent aussi de ce mouvement.
Le film « Tous au Larzac » est un film réalisé par Christian Rouault en 2011. Il est en 2 parties. La première partie, c'est toute l'histoire de la lutte du Larzac. Et la deuxième partie, c'est les bonus, les rendez-vous avec toutes les personnes qui sont présentes dans le film. Donc, en fait, le film, c'est plein de résistants, dont Léon Maillet, José Bové et d'autres, qui expliquent la lutte, leur vision des choses et comment ils l'ont vécu. Il raconte l'histoire de la lutte du début à la fin, comment elle s'est créée et toutes les histoires, vraiment, il explique bien en détail. Personnellement, je trouve que le film, il explique bien, c'est vraiment clair les dates, mais par contre, il est un peu long, parce que le premier DVD fait environ 1h30 et le deuxième en fait pratiquement 2h. Donc pendant tout ce temps, je trouve ça un peu long, surtout que c'est un film documentaire plus pour les adultes. Mais je trouve ça quand même très intéressant parce que c'est les paysans, ceux qui luttent, qui expliquent leur vision des choses et comment ils ont vécu en fait cette lutte. Aussi, c'est intéressant parce que on a des images et des photos qui ont été prises durant la lutte et plein de, par exemple, de discours et des choses comme ça prises pendant la lutte dans le documentaire. Donc, c'est pas que des interviews. Moi, je trouve ce film très intéressant, mais du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu long, mais bien et clair pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la lutte du Larzac.
Quand le film Tour de Larzac est sorti, en 2011, il était projeté après un peu dans toute la France et déjà nous appelait pour qu'on vienne discuter après le film. Alors nous, on était surpris parce que souvent on y allait à 2 ou 3 des fois. Et quand le film était fini, les gens, en général, se mettent à applaudir. Et puis après, il nous faut aller devant pour discuter avec les gens continuent à applaudir en se demandant où on est. On n'était pas habitués à ça, mais bon.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un avis sur la bande dessinée Larzac, créée par Pierre-Marie Terral, avec une préface faite par José Bové. Après une relecture, j'ai remarqué beaucoup plus de détails que je n'avais pas vus. Par exemple, il y a des petites référence à certains personnages du Larzac. Et puis aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'on voit comment les gens ordinaires se sont battus pour protéger leur terre, leur maison. S'ils avaient agrandi le camp, le Larzac serait tout englobé. Le patrimoine du Larzac aurait complètement disparu. C'est pour ça que ces personnes se sont battues aussi pour sauver leur champ. Aussi, cette bande dessinée est très intéressante pour plusieurs raisons. Car déjà, les dessins ont un énorme charme. Ce style réaliste, sans couleur. Oui, la BD est en noir et blanc. Ils savent en jouer du noir et blanc. Néanmoins, le contexte politique est assez quand même compliqué à comprendre pour les jeunes lecteurs et même ceux qui ne savent pas trop ce qui s'est passé. Je la conseillerais plutôt pour des lecteurs plus aguerris. Également pour ceux qui préfèrent. Il existe aussi en roman, mais je pense que ce serait un gâchis de se passer des dessins magnifiques. Et l'histoire est quand même assez prenante. Il y a beaucoup d'enjeux. On se demande, si on connaît pas l'histoire, on se demande est-ce qu'ils vont réussir, comment ça s'est passé. Puis aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus sur l'histoire du Larzac et sur tout le patrimoine du Larzac. Car le Larzac, c'est aussi ça. La lutte fait partie de l'histoire du Larzac. Sans la lutte aujourd'hui, on serait sûrement beaucoup à ne pas être là, à ne pas habiter sur le Larzac. Donc je vais vous raconter également l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui tiendraient à la lire. La lutte du Larzac s'est passée dans les années 70. La BD commence sur quelqu'un qui rentre sur le Larzac. Sa famille regarde la télé et apprend en direct que le camp du Larzac va être agrandi. On a un fil rouge tout au long de l'histoire qui va vous raconter plus. Quand même, il faut un peu connaître l'histoire avant. Cette BD va permettre d'approfondir la chronologie.
Il reste toujours des traces de la lutte avec le journal Gardrem le Larzac.
On a eu l'idée de créer un premier journal qui s'appelle Gardrem le Larzac, qui existe encore, qui était tous les mois à l'époque. Et c'était un journaliste du Canal Chien qui nous avait aidé à démarrer le journal. Puis après, le Canal nous a payé le premier numéro du journal. Et puis pendant la lutte, on avait jusqu'à 4 ou 5 000 abonnés.
Aujourd'hui, ce journal existe toujours et traite de sujets sur le Larzac et ses alentours. Il garde la mémoire de la lutte, à la fois en faisant prendre la parole aux résistants de cette époque et en faisant des échos à des luttes similaires. En 2023, un grand rassemblement, 20 ans après Larzac 2003 et 50 ans après le début de la lutte, un rassemblement pour montrer que sur le Larzac, il y a toujours des militants qui se battent pour une cause et qui soutiennent ce moment du passé.
Eh bien, bienvenue à vous toutes et tous à cette première édition des Résistantes 2023. On est hyper heureuses et heureux de vous accueillir. Sur la carte des luttes locales de reporters, il y a plus de 600 luttes qui sont répertoriées contre des projets polluants et imposés. Bien sûr, ce ne sont pas les seules luttes qui ont lieu. Et nous, notre ambition pendant ces rencontres, c'était de faire se rencontrer toutes ces luttes et qu'elles puissent créer plein de choses pour la rentrée et pour l'année politique à venir. Donc bienvenue à vous et merci d'être venus.
Aujourd'hui, nous fréquentons le collège du Larzac. Certains d'entre nous y vivent. Nous voulons le garder libre grâce à notre passé et continuer à y rester et à répandre cette histoire qui nous a précédés.
Par de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force.
Une émission de Maël, Loun, Lina, Pablo, Salim, Léa, Liam et Camille. Merci à nos profs Valentin Sanouillet et Nicolas Bourgeon. Merci à Sophia Pavanini de Radio Larzac, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont partagé leur expérience.
Les sources utilisées pour réaliser ce podcast sont le film « Tous au Larzac » réalisé par Christian Rouault, sorti en 2011, la BD « Larzac, histoire des résistances paysannes » par Pierre-Marie Terral et Sébastien Verdier aux éditions d'Argo, sorti en 2023. Les documents étudiés aux archives correspondent au versement du cabinet du préfet, de la Direction générale de la Sûreté nationale et du secrétariat particulier du sous-préfet de Millau. Merci au personnel des archives départementales qui nous ont accueillis. Merci également à Philippe Durand, auteur du spectacle Larzac, et à Pierre-Marie Terral, historien spécialiste du Larzac, qui sont venus au collège pour échanger avec les élèves sur leurs œuvres. Enfin, la chanson d'introduction et de fin du podcast et la chanson du Larzac par Dominique Loquet en 1974.
C'était Gardarem la mémoire, une émission du Club Radio du Collège du Larzac. Merci de nous avoir écoutés.
Refusons de payer l'impôt, il s'en ira à l'armement, et reversons les 3% pour financer ce bâtiment. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Ne nous trouvons pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force, nous garderons l'Arzac.